Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de café, le balado d'LNH.com. Nicolas Ducharme, bienvenue à cet épisode du 12 novembre. Au lendemain, une belle tempête de neige ici au Québec. En Europe, je ne sais pas à quoi ça ressemble, mais ici, on a eu une belle première bordée de novembre. Alors, on va parler de hockey aujourd'hui, mais surtout, je pense que je vais parler de neige avec les deux collègues habituels, JF Chaumont. Salut, JF.
Salut, Nick.
Et Guillaume Lepage. Salut, Guillaume.
Salut, Nick.
Aviez-vous vos pneus d'hiver?
Ben, moi, par une...
Toi, non, attends,
ça a été un timing... Non, mais ça a été un timing vraiment intéressant parce que j'ai pris mon rendez-vous il y a un mois. Et là, lundi, j'avais un rendez-vous pour faire changer mes pneus, c'est-à-dire la veille de la tempête. Donc, j'étais chaussé de pneus d'hiver, pas flambant neuf, mais flambant
posé.
Fraîchement installé, disons ça comme ça. Et j'aimerais souligner, la question devrait plutôt être, aviez-vous vos bottes d'hiver? Ça, c'est pour mon collègue à l'autre bout du fil.
Je le savais que ça s'en venait. Mais oui, moi, j'avais également mes pneus d'hiver. J'avais eu la sagesse de les faire poser.
Oui, bravo! Non, mais ça commence à rentrer.
Deux semaines. Habituellement, c'est le père à Fanny, ma copine, qui pose mes pneus. Mais cette année, je me suis dit, je vais lui donner une pause. C'est un homme qui travaille assez fort. J'ai eu la bonne idée d'aller au garage. Puis non seulement, ils ont installé mes pneus d'hiver, ils ont également mentionné que mes tables à suspension étaient brisées. Honnêtement, juste le mot « table à suspension », je ne comprenais pas c'était quoi. Donc, j'ai compris par contre le montant de la facture qui était quand même assez élevé. Ça, j'ai bien entendu le montant. Puis cette journée-là, je roulais pour Ottawa pour aller couvrir justement les Sénateurs. Ouais. Puis le garagiste me rappelle pour me dire « t'as également ton filtre à air à changer ». On parle d'environ 60 $. J'imagine que tu vas me dire oui quand tu viens de dire oui aux tables à suspension. Je vois, honnêtement, tu n'étais pas obligé de me téléphoner pour ajouter un 60 $ à la facture. Un long détour pour dire que oui, j'ai mes pneus. J'avais pas mon balai en neige, par contre, et je n'avais surtout pas mes bottes. Et hier, on a fait un marathon de 12 heures.
Ni son manteau d'hiver.
Non, on a fait un marathon de 12 heures dans l'environnement du Centre Bell. Je croyais que Guillaume, qui avait ses bottes de grandeur 15, aurait la gentillesse de partir à un certain moment pour aller récupérer un petit latte, tu sais, chose qu'un collègue sympathique fait en temps normal, surtout pour l'autre collègue qui n'a pas de bottes. Mais non, Guillaume a refusé d'y aller en me disant « viens avec moi », mais pas question que je marche dans le gadou puis dans l'eau. Question d'avoir le pied froid ensuite pour le restant de la journée.
Je voulais pas sortir tout seul. Ben, ça me prenait un peu de compagnie là, pour aller au café.
C'est quand on arrive à 10h20, 10h15, qu'on sort vers 11h45, je me dis, il pourrait se passer de moi pour 20 minutes, mais non.
Mais en même temps, je veux dire, du Centre Bell, tu peux pas mal pogner. Ah non, les tunnels, ils se rendent pas, hein, le Montréal souterrain.
Ils se rendent pas
là.
Au Melk, notre café traitant, là.
Ah, OK,
ça
OK.
Ça se rend pas là.
Okay,
faut sortir.
Ouais,
faut
on
sortir
a nos routines, nos habitudes de petits vieux.
Deux bonnes princesses. Hey, aujourd'hui, les gars, on va revenir sur le match d'hier, justement, entre les Canadiens et les Kings. Pas une grande performance de la part du tricolore. On va parler aussi de ce qui s'en vient pour le tricolore. On va parler des Kings aussi. Là, Andy Kopitar, c'était son dernier match à Montréal. Vous y avez parlé. C'est toi, Guillaume, qui a parlé. On va discuter tout ça. On va parler du temps de la renommée qui a été, parce que là, JF, tu reviens de Toronto. On va parler de ce qui s'est passé en fin de semaine. On va parler de ça. On va parler aussi de Caleb Desnoyers. Des bonnes nouvelles dans le cas du quatrième choix du dernier pêchage. Donc, tout ça aujourd'hui à la tasse de café. Si vous nous écoutez sur le site web de lnh.com, ben écoutez, sachez qu'on est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Faites une recherche, la tasse de café LNH, vous allez nous trouver. Et vidéo maintenant sur YouTube. Donc, si vous voulez nous regarder, c'est disponible sur YouTube. Merci d'être là chaque semaine. Les gars, si les souliers de JF n'étaient pas très bonne performance au niveau de l'imperméabilité hier, c'était un peu ça aussi pour les Canadiens. Défaite contre les Kings de Los Angeles où on n'a pas... on avait une mauvaise dans le corps, je pense que tout le monde y a chez le tricolore.
Bien, ça fait quelques matchs moyens dans le corps du CH. C'est peut-être un rééquilibre aussi qui s'annonce. Les Kings, Martin Saint-Louis n'a pas voulu parler des Kings comme étant une bête noire en disant qu'il n'y croit pas, que de toute façon, il ne joue pas assez souvent contre cette équipe-là, mais qu'il était heureux de savoir que les Kings restent dans l'Ouest, donc qu'on ne les croise pas trop souvent. C'est un très mauvais début de deuxième période. Trois buts en un petit peu plus que deux minutes. Le troisième but, Samuel Montembeault, qui au lieu de simplement immobiliser la rondelle, essaye une passe pour Jaden Struble, mais ça a été une passe parfaite pour Kevin Fiala qui a finalement marqué. Et contre les Kings.
J'ai trouvé que sa séquence, on aurait dit que la manette de Montembeau a manqué de batterie. Je ne sais pas si tu comprends.
C'est une référence PlayStation. Il y a comme une crampe au cerveau.
On dirait que
ce qu'il a fait, c'était pas nécessairement ce qu'il souhaitait faire à l'intérieur de sa tête.
Il a comme gelé entre deux positions, là, un peu.
Oui, c'était pas la bonne idée. Les Kings qui marquent trois fois rapidement, c'est une équipe qui est capable de fermer le jeu. Ils l'ont fait hier au Centre Bell. Puis après le match, il y a un mot qui revenait dans chacune des discussions, c'était exécution. C'est vrai que c'était croche. Chaque fois qu'il rentrait en territoire ennemi, on dirait qu'il voulait y aller un petit peu trop de dentelle, une mauvaise passe, une passe de trop. C'était pas un jeu assez nord-sud contre une équipe justement qui préconise ce style-là. Écoute, c'était pas, pour reprendre une bonne vieille expression de Richard Labbé, là, c'était pas un classique qu'on va retrouver dans un coffret souvenir du 21e siècle. C'est un match à oublier pour le CH.
Est-ce qu'il y a, tu parlais de réajustement, oui, au niveau de l'affiche qu'on voyait comme le tricolore, mais est-ce qu'il n'y a pas une matière à se poser des questions sur la performance d'hier contre une équipe, je trouve, les Kings, qui ont joué plus ou moins un match de série, un style de série hermétique, ferme le jeu, difficile à rentrer. Tu sais, j'en parlais, j'étais allé à l'entraînement des Canadiens lundi, puis on parlait un peu du nombre de lancers du tricolore. Cette année, ça marche bien. On marque plein de buts. Le taux de pourcentage de tir des Canadiens est à 15% avant le match d'hier, loin devant les autres équipes de la Ligue. Donc, tu ne lances pas beaucoup, ça rentre. C'est le fun quand tu es capable de jouer avec ta vitesse. Aussitôt que tu rentres en zone, ça crée souvent une chance de marquer, Cole Caulfield qui marque de toutes les façons. Et quand tu arrives dans un style de jeu qui est préconisé par les Kings, style de jeu qui va être préconisé en séries éliminatoires, puis tu n'es pas capable de la chipper dans le fond, puis de l'aller la récupérer en utilisant ton corps, en forçant des revirements en fond de zone, c'est le fun comme début de saison, les Canadiens, mais il reste que comment ça va jouer dans 6-7 mois, c'est pas exactement le style de jeu qui connaît du succès, que le Canadien connaît du succès avec cette année. Là.
Ouais, ben, je pense qu'il faut mettre quand même en perspective le fait que les Kings ont le même style de jeu depuis plusieurs années, puis les Canadiens, c'était leur 9e défaite de suite contre les Kings de Los Angeles. Donc, c'est pas la première fois qu'on se bute à ce système de jeu-là. Je t'ai dit, tu sais, on l'a vu quand ils ont pris les devants par deux, quand ça a été c'est tombé 3-1, les gars restaient dans le centre de la glace, il y avait un homme en pression. Le centre de la glace était bouché, les défenseurs, donc ça a été très difficile. Moi, j'étais curieux de voir, avec cette édition-là du Canadien, la vitesse qu'elle présente. Est-ce que ça aurait peut-être changé la donne, puis est-ce que ça leur aurait permis de générer plus d'attaques contre les Kings? La réponse est non. T'as raison de dire que ça va être un jeu plus serré en série, mais je pense que c'est spécifiquement les Kings de Los Angeles, de la façon qu'ils jouent, tu regardes leur fiche à l'étranger cette année, c'est une défaite en temps réglementaire en 10 matchs sur les patinoires adverses. Puis en matinée, on posait la question, y a-t-il une raison pour ça? Est-ce que vous... Puis tous les joueurs disaient, ben, je sais pas, ça donne comme ça, mais quand tu y penses, quand les Kings sont sur la route, ils n'ont pas besoin de donner un spectacle à leurs partisans, ouais. Ils n'ont pas besoin d'animer le spectacle, ils prennent les devants, ferme le jeu, puis on a commencé à somnoler à peu près en milieu de deuxième période, puis on savait qu'il n'y aurait pas de remontée hier parce qu'il n'y avait absolument rien qui se passait de l'autre côté. Fait que je me dis, oui, c'est vrai qu'ils commencent à avoir, on commence à avoir des tendances lourdes chez le Canadien. Il y a des choses qui sont à corriger qui ne se corrigent pas immédiatement, qui traînent sur quelques matchs. Je pense qu'il y a certains drapeaux qui se lèvent, mais il faut remettre quand même en perspective le fait que contre les Kings de Los Angeles, c'est toujours compliqué. Puis on ne semble pas trouver la solution à cette énigme-là du côté du Canadien.
Moment débat, là. Los Angeles, vous le prononcez comment?
Je sais pas.
Los Angeles, Los Angeles, Los Angeles. Il y a 3-4 manières de le prononcer en français.
Vas-y pour la Cité des Anges.
La Cité des Anges. LA aussi. Donc,
Los Angeles, moi je dis toujours.
Ça me faisait rire. Il y a tout le temps 3-4 manières, mais c'est ma conjointe Marie-Pierre, que je salue, qui avait comme, mais c'est pas de même ça se prononce. Je dis, ben, pour certains, oui, d'autres, non. Mais bon, tu sais, les Kings ont connu un mauvais début de saison, mais à la lumière de ce qu'on a vu hier, c'est une équipe qui a ce qu'il faut, justement. Ça peut juste rentrer en série par la bonne porte, c'est-à-dire pas celle des Oilers d'Edmonton. ça va les aider, là, eux autres, là, parce qu'il y a, des gros bonhommes. Vous avez pensé quoi des nouvelles acquisitions de l'équipe? Cody Ceci qui s'est ajouté, Joel Armia qui était de retour hier, tout ça. Quand vous avez regardé cette équipe-là, est-ce que ça, à votre avis, c'est une équipe qui peut aller plus loin? Surtout, écoutez, ça sera peut-être pas contre les Oilers, mais surtout de la manière que les Oilers jouent présentement, là.
Moi, je garde quand même certaines réserves. Je trouve qu'il manque de punch offensif à cette équipe. Hier, oui, on parle de 4 buts. Là, il y a un but dans un filet désert contre le CH, donc 5 buts total. Mais beaucoup de respect pour Joel Armia. Sauf que si tu as Joel Armia comme ailier d'un premier trio, tu as peut-être besoin de renfort. À la ligne bleue, tu vas peut-être avoir besoin d'un défibrillateur aussi, plus tôt que tard. Brian Dumoulin, Cody Ceci, Joel Edmondson, Drew Doughty, c'est assez vieux, merci. Ce ne sont pas non plus les défenseurs les plus mobiles. Il y a Brent Clark, il y a Drew Doughty qui a encore une bonne mobilité. L'avantage numérique, ils utilisaient sur la première vague hier soir, 5 attaquants. Pas convaincu que ça donne un grand sourire à Drew Doughty ou à Brent Clark. Andrzej Kopitar n'a quand même plus 25-27 ans. Là. C'est un joueur qui en est à sa dernière saison. Non, moi, même si Los Angeles a joué un bon match au Centre Bell contre une équipe précise contre qui ils ont souvent du succès, je vois pas cette équipe avoir les armes pour y aller d'un long parcours en série.
Puis, tu parlais de Kopitar. On vient au CH parce que je vais en parler de Kopitar. Avez-vous l'impression qu'il va avoir un effet? Par contre, Kopitar, c'est sa dernière saison, on l'a déjà vu dans d'autres équipes, tout ça. De gagner pour le capitaine?
J'ai posé la question à Philippe Dano hier matin, puis il disait c'est certain que hier, il était conscient que c'était un match spécial pour Kopitar. On y reviendra peut-être, mais il avait fait voyager ses enfants, sa femme. Il y avait 25 invités là, dans les gradins pour ce dernier match à Montréal. Donc, on était conscient dans le vestiaire des Kings que c'était un match qui avait peut-être une importance plus significative pour Kopitar. Puis il dit quand on sait ça, c'est certain qu'on veut lui en donner un peu plus, lui permettre de savourer la victoire. Est-ce que ça peut se transposer en séries éliminatoires? C'est peut-être l'objectif du groupe, mais comme Jeff disait, ça reste un groupe quand même énigmatique, un peu vieillissant.
Qui a besoin d'aide.
Écoute, les séries éliminatoires, c'est 2 mois intenses de séries, de hockey très, très difficile. Puis là, la moyenne d'âge de ce club-là, je ne sais pas, je n'ai pas regardé les chiffres, mais ça doit être assez élevé, merci. Donc, j'ai quand même mes bémols là-dessus, mais du moins en saison régulière, on sait que c'est la tournée d'adieu du capitaine, puis on veut lui bien performer là, pour lui donner quelques victoires dans des matchs qui ont peut-être une importance plus grande à ses yeux, là, comme ça a été le cas hier à Montréal.
Je te confirme, c'est l'équipe la plus vieille de la Ligue avec une moyenne de 29,74 années. Chiffre que j'aimerais bien revenir parce qu'il me semble que j'étais plus flexible et un petit peu, puis ça faisait moins mal le matin quand je me levais. Mais Kopitar, justement, je ne sais pas si ça lui fait mal ce matin lorsqu'il s'est levé, mais hier, c'était important pour lui. Tu vous y avez parlé après le match. Pourquoi il a choisi Montréal? Raconte un peu son histoire, mais il a choisi 3 endroits où il voulait amener sa famille. Pourquoi il a choisi Montréal?
C'était la question que tout le monde se posait parce que hier, c'était son 14e match en carrière à Montréal. Donc, c'est pas un gars qui... les Kings sont pas en visite souvent dans une saison. C'est un match par année. Puis dans les débuts de sa carrière, il y a peut-être des années où il n'est pas passé à Montréal. Donc, c'est la question que tout le monde avait sur le bout des lèvres. Puis on lui a posé après le match. Puis il dit, c'est la culture, la passion des fans, l'ambiance qu'il y a dans l'aréna. C'est mon amphithéâtre préféré. Puis ses enfants, cet été, lui ont demandé... Quel est ton aréna préféré à travers la Ligue? T'sais, un peu innocemment, puis il a dit c'est Montréal. Puis de là est née un peu l'idée d'organiser un voyage familial. Puis il dit ça a pris 15 secondes aux enfants pour convaincre ma conjointe de faire ce voyage-là. Je pense que Montréal, c'est une destination qui se compare avantageusement à d'autres à travers la Ligue nationale. On parle pas d'un voyage à Winnipeg à Edmonton.
On chiale souvent à Montréal, mais tu sais, le gazon n'est pas nécessairement plus vert ailleurs. Là. ça reste une belle ville.
C'est
une super belle ville, Montréal. Là. Il y en a gros qui disent que c'est le Las Vegas du Nord-Est, la Nouvelle-Orléans du Nord, le Nashville, mais avec un peu moins de country, mais c'est juste... mais bon, quand il neige puis que Chaumont doit aller marcher dans le gadou, là, c'est d'autres choses. Donc, ouais, mais pas prévu écoute... ça. Il n'avait peut-être pas prévu ça au niveau de sa famille. Là, de...
Non, mais je suis sûr que les enfants, il y a un petit gars de 9 ans, une petite fille de 10 ans, ils n'ont pas l'occasion de voir la neige très souvent à Los Angeles. Donc, je pense qu'ils ont apprécié ce voyage-là. Puis, ils ont eu l'occasion, lundi, c'était journée de congé pour les Kings. Andy Kopitar a patiné sur la patinoire du Centre Bell tout seul avec son petit garçon, sa fille aussi qui était sur la patinoire en bottes. Mardi, pour la période d'échauffement, ses deux enfants étaient sur le banc des Kings. Ils ont pris une photo. Tu sais, on sent que Kopitar veut profiter de cette saison-là pour immortaliser, tu sais, certains moments puis créer des souvenirs dont il va se rappeler toute sa vie ensuite de ça, puis dont ses enfants vont se souvenir aussi. Donc, pour lui, ce match-là à Montréal était plus significatif. Puis peut-être le reverra-t-on au Centre Bell si on a une reprise de la finale de 93, mais bon, il reste encore beaucoup de chemin à faire d'ici là. Mais... Donc, on peut dire que pour l'instant, c'est probablement son dernier match. C'était probablement son dernier match à Montréal.
Puis tu voyais que c'était un match particulier pour lui juste pendant la période d'échauffement. Ses enfants étaient au banc. Il y avait plusieurs partisans avec des chandails de Kopitar. Oui, il y avait la famille Kopitar, mais il était quand même un groupe, là. Ils étaient plus que juste les enfants et sa conjointe. Kopitar qui arrêtait au banc à la fin de l'échauffement, qui a pris des photos avec ses petits. C'était beau à voir. Puis on, tu sais, je trouve que c'est un joueur qui est souvent passé dans l'ombre. Des Crosby, des Ovechkin, peut-être même de Patrick Kane. Mais si tu regardes l'ensemble de sa carrière, c'est quand même phénoménal. Puis c'est tout droit vers le temple de la renommée. 1287 points en 1467 matchs. Deux conquêtes de la Coupe Stanley. Il a gagné le trophée Frank Selke. C'est un joueur qui était complet, qui faisait tout sur une glace sans nécessairement toujours attirer l'attention puis se retrouver sous les feux de la rampe. Mais c'est un joueur de centre excessivement intelligent. Puis hier matin, quand Nick Suzuki en parlait, il y avait des étoiles dans les yeux en disant « Bien, avec Patrice Bergeron, c'était vraiment le type de joueur de centre que je regardais. Je voulais copier son style de jeu. » Puis petite anecdote aussi, Suzuki, malgré un jeune âge en Ligue nationale, a déjà commencé à collectionner des items. Puis l'an dernier, il avait demandé à Andy Kopitar de garder son bâton. Donc, il ne demande pas à tous les joueurs de la Ligue nationale, mais ça te prouve à quel point il y a du respect pour Andy Kopitar.
Oui, la ligne que tu traces avec Patrice Bergeron, je pense que c'est un peu en version un peu plus grosse, là, puis un peu plus offensive.
Ouais, c'est version de l'Ouest, 200 livres et plus. Là.
La version de l'Ouest de Patrice Bergeron au niveau de l'impact qu'il a eu au sein de la même organisation toute sa carrière, c'est offensivement, défensivement, Coupe Stanley, mais... Quand vous regardez sa carrière à Kopitar, tu l'as dit, temple de la renommée, vous le classez où parmi tous les joueurs de l'histoire des Kings? Est-ce que c'est Monsieur Kings officiellement, selon vous, ou il y a encore deux, trois noms qui sont peut-être en avant, selon vous?
Ben, il est pas loin d'être Monsieur Kings, juste par rapport au fait que la première Coupe Stanley de l'histoire des Kings, c'est dans l'ère Andy Kopitar. C'est lui qui a amené la Coupe Stanley à Los Angeles. Peut-être que Wayne Gretzky va rester le nom qui arrive au sommet, étant donné que Gretzky, c'est Gretzky, là, la plus grande légende du hockey. Marcel Dionne pour les plus vieux. Mais sinon, Andrzej Kopitar et Drew Doughty arrivent très facilement au sommet de la montagne de Los Angeles.
T'en manques un dans la gang. Lequel t'as pas nommé?
Jonathan Quick?
Non, je vais te donner un indice. Il parle français.
Ah, Luc Robitaille, Lucky Luke. Ouais.
Ah, Marcel Dionne, on l'avait nommé. Ouais, je pense que Marcel Dionne reste le plus grand joueur parce que c'est lui qui a mis le hockey sur la map à Los Angeles. C'est pas... Ouais. Gretzky est arrivé, ça a été un gigantesque
boom. Gretzky l'a popularisé.
Dionne, c'est ça, mais Marcel Dionne a défriché le terrain. Luc Robitaille, bon, écoute, il est encore dans l'organisation, donc ça aide. Mais bon, Drew Doughty, là, personnellement, je pense que Doughty a eu un... Pas Doughty, excuse. Kopitar a eu un plus grand impact sur la glace que Gretzky. Mais Gretzky, c'était Gretzky. Donc, je l'ai troisième ou quatrième dans le cas de Kopitar. Je ne sais pas toi, Guillaume, au niveau de... Ou tu es un grand fan de Dave Taylor, peut-être, je ne sais pas.
Non, je pense que le classement fait bien du sens de votre côté, messieurs.
Guillaume, il y avait Joël Armia, je pense, assez haut.
Ouais, ben toute une pièce de jeu hier. On a quand même volé la rondelle à Lane Hudson, ce qui est C'est assez inhabituel de voir Hodson commettre une bourde de la sorte.
Pensez-vous qu'il a envoyé un petit texto après le match pour le remercier? Ou...
Ah ben, Yoel, dans le vestiaire, avait quand même un grand sourire, ce qui est assez rare, là. Je te dirais qu'à Montréal, il était plutôt réservé. Puis il a beaucoup ri aussi parce qu'on lui a parlé de la petite ovation qu'il a eue, là, parce qu'on a salué son retour à Montréal. Puis les partisans ont quand même étonnamment applaudi chaleureusement.
Étonnamment,
disait...
si y a une couche.
Ben, c'est parce que c'est un joueur qui était dans l'ombre, là. Tu sais, c'était pas la grande vedette de cette équipe-là, mais oui, on reconnaît qu'il a rendu de fiers services aux Canadiens dans les dernières années, mais après le match, il disait, ouais, ça commençait à être un peu trop long, puis il commençait à être un peu mal à l'aise là, sur le banc, fait qu'il avait hâte que ça se termine, mais il racontait ça avec le sourire, fait que je pense qu'il a bien apprécié ce petit geste-là des Canadiens.
Vous avez profité du passage des Kings pour parler à Philippe Dano. Comment ça se passe, sa saison, là, pour lui jusqu'à présent?
Pour lui, c'est 3 mentions d'aide, à moins qu'il ait récolté un point hier.
4. Il y a eu une passe sur un but dans 4. Un filet désert hier. 4 maintenant.
Donc, 4 mentions d'aide. Donc, au niveau de la production, c'est certain que c'est un joueur peut-être qui cherche en ce moment, mais on le place vraiment dans une chaise défensive du côté des Kings. Puis, de ce que j'ai compris, généralement, il trouve que l'équipe ne produit pas nécessairement beaucoup de chances de marquer, ne marque pas beaucoup de buts non plus. Donc, c'est certain que dans une équipe qui n'est pas vraiment offensive, ben le centre de troisième trio, ben peut-être c'est un résultat de cause à effet. Mais c'est certain qu'on en attend un peu plus de la part de Philippe Dano offensivement, parce que c'est un joueur quand même qui récolte ses points, ses 40 points, disons, par saison, là, Philippe Dano. Donc,
à peu près, ouais.
C'est certain que pour l'instant, sa production est en deçà des attentes, mais lui est assez satisfait plutôt du début de saison de son équipe, mais il est conscient que tout le monde peut en faire un peu plus de ce côté-là.
Hey, les gars, si je peux prendre 30 secondes, juste revenir sur Joël Armia, deux petites histoires avec Joël Armia. Là. La saison où Armia a joué pour le Rocket de Laval, puis qu'à son retour à Montréal, avait eu le courage de dire: j'ai eu probablement des problèmes de santé mentale. Tu plaçais trop d'attentes pour les performances, devenais nerveux. J'ai eu besoin de consulter psychologue sportif. Le moment où Armia, qui est un timide, finit par s'ouvrir sur cet enjeu-là, je sens qu'il a gagné aussi une forme d'amour, de respect de la part des partisans du Canadien. Même si on n'a jamais eu la chance de découvrir sa véritable personnalité devant un Kodak, on sent qu'il se dégénait un petit peu plus. Puis hier, son sourire voulait tout dire. C'était un sourire de timidité, mais en même temps, je pense qu'il l'a pris, cette petite dose d'amour-là. Tu sentais qu'il était heureux de saluer la foule montréalaise. Il a quand même été ici pour un bon moment du côté du CH.
Oui, puis il a été dans le périple jusqu'en finale de la Coupe Stanley aussi. Ouais. Puis il y avait eu
la gang de 2021.
C'est ça, il y avait quand même 8 points en 21 matchs là, lors de ces séries-là. Donc, je trouve que quand il était dans sa bonne chaise, il était vraiment utile. Quand c'était le temps justement de jouer du hockey comme les Kings de Los Angeles, tout dépendant, je pense que c'est là qu'il était le plus efficace et qu'il était le plus apprécié à Montréal. On revient sur le tricolore. Bon, les deux prochains matchs contre les Stars, jeudi, les Stars qui l'ont emporté 3-2 hier en prolongation contre les Sénateurs d'Ottawa. 3 victoires de suite pour les Stars. On les voyait ou à peu près pour ce début de saison-là, c'est pas l'adversaire que tu veux voir arriver à Montréal en ce moment. C'était le Canadien, puis il y a des drapeaux rouges qui commencent à se lever. Hein?
Ouais, oui et non. Ça va être lourde tâche.
Ouais, vas-y, Guillaume.
Il y avait comme un bon délai là-dessus, mais ça doit être l'Internet. Là. Ils ont ralenti son Internet à cause de ses commentaires de la semaine passée, je pense.
Son Internet marche cette semaine, c'est déjà
ouais,
ça. Contrairement
c'est un bon plus.
Vous n'avez pas manqué d'électricité, vous, de votre côté, hier?
Non.
OK, c'est ça. Moi non plus, mais en avant, la maison en avant de chez nous, il n'y avait pas d'électricité, donc... l'enfant à la maison, on salue tous les parents qui ont fait l'école à la maison hier. Je te laisse poursuivre, Guillaume.
Non, on parlait des Stars. Tu sais, je pense que c'est une équipe qu'on a parmi les équipes prétendantes au titre cette année. On les a pas mal toutes avec un long parcours en série. C'est une équipe qui a beaucoup de profondeur, qui joue pas, tu sais, qui joue un style beaucoup plus rapide, beaucoup plus dynamique que les Kings de Los Angeles. Est-ce que ça va être mieux pour les Canadiens? Est-ce qu'on va pouvoir mieux contrer ça? Est-ce qu'on va être capable de générer plus de chances en attaque? Peut-être, mais effectivement, c'est pas nécessairement un test facile que tu aimerais obtenir après une sortie comme celle d'hier. Le risque d'en perdre une deuxième est assez élevé du côté des Canadiens. Puis là, ça va être un bon test de caractère pour voir vraiment de quoi cette équipe-là est faite. On en parlait la semaine dernière, hein, le calendrier jusqu'à la fin novembre n'est pas évident. Puis là, on rentre un peu dans la grosse séquence importante contre des grosses équipes. Ça a mal commencé hier, disons.
Tu allais dire, JF, toi, tu n'étais pas totalement de cet avis-là. Là. Tu disais oui ou non?
Non, mais d'accord quand même avec Guillaume. Mais oui, si tu veux rebondir, si tu veux montrer que tu as le cœur au ventre, etc., ça reste un rival que tu souhaites voir débarquer parce qu'effectivement, tu veux te mesurer avec les meilleures équipes de la Ligue et les Stars en font partie. La dernière rencontre contre les Kings, Juraj Slafkovský n'a vraiment pas connu un bon match. On voyait son visage aussi au banc du CH en fin de troisième. C'était pas Joe Sourire sur le banc du Canadien. Nick Suzuki également, quand même Bobo a un pied dans le cas de Nick Suzuki. Donc le prochain match, il arrive rapidement dès jeudi soir au Centre Bell. Mais écoute, on l'avait prévu, Guillaume le mentionnait, tu regardais le calendrier du mois de novembre, il n'y a pas beaucoup de pauses lors de ce mois-là. Et les Stars de Dallas, ce n'est jamais trop, trop reposant comme équipe.
Ce qu'il faut, chez TKR, c'est éviter qu'il y ait une boule de neige négative qui commence, une boule de gadou qui
Puis
commence
surtout,
à se bâtir,
surtout dans l'association de l'Est, la parité, elle est plus que présente. Donc, tu ne peux pas, pour l'instant, te permettre 3, 4, 5 défaites d'affilée comme les Maple Leafs de Toronto font en ce moment.
Ouais, et ensuite, tu as les Bruins qui viennent samedi sur une séquence de 7 victoires. Ça va être, il n'y a rien qui va aller en s'améliorant là, du côté des adversaires. Donc, ça va être vraiment aux Canadiens de corriger son jeu pour rebondir de belle façon.
On dirait que j'ai plus confiance contre les Bruins que les Stars parce qu'au moins contre les Bruins, on dirait que peu importe la qualité de l'équipe, à travers les années, il y a un équilibre qui se trouve où peu importe qui est sur la glace, là, les deux équipes, c'est à peu près égal au niveau de l'effort que tu donnes. Ça donne tout à des bons matchs. Justement, Stars, Bruins, ça serait quoi votre stratégie au niveau de l'utilisation des gardiens pour les deux prochains matchs?
Je ne sais pas s'il va y avoir une stratégie X ou Y, mais je crois qu'elle est assez simple. Je m'attends à voir Jakub Dobesh pour le prochain match. Puis ensuite, on verra pour la rencontre contre les Bruins. Si jamais Dobesh a un match fumant contre les Stars, pourquoi pas poursuivre avec le gardien qui te donne les meilleures chances de gagner. Donc, je vais attendre avant de prédire la rencontre pour les Bruins. Mais tu sais, on a parlé rapidement de Boston. Je trouve que c'est une équipe cette année qui a moins de pression. On avait pratiquement cru à une reconstruction du côté des Bruins. Là, il arrive Marco Sturm, arrive un nouvel entraîneur. On dirait que ça colle en ce début de saison. 7 victoires d'affilée. Ils peuvent simplement déjouer les pronostics cette année. C'est ce que Jeffrey Viel disait. C'est ce que quelques joueurs des Bruins mentionnaient. Jonathan Spiro, l'autre Québécois des Bruins en fin de semaine. Donc, il y a aussi une petite fierté. On dirait qu'on a été piqué dans l'orgueil du côté des Bruins en disant « Bon, mais c'est la fin d'une grande époque. On va devoir penser à reconstruire. » Puis là, en ce moment, ce début de saison, il y a un regain de vie.
Surtout, il y a un regain de vie pour Jeremy Swayman. L'année dernière, ça a été une grosse portion du problème, là, la performance de Swayman.
Oui, mais ça venait peut-être aussi plus haut que Jeremy Swayman, avec un gardien qui n'a pas de contrat pour le camp d'entraînement, qui manque une grande partie du camp, qui arrive à la dernière minute, se sent probablement mal vis-à-vis ses coéquipiers. Donc, la gestion Swayman avait été assez catastrophique du début à la fin.
Ouais, non, ça a été, je pense qu'il y a eu un reset là, chez les Bruins cet été, mais je suis quand même quand. Je veux dire, Morgan Geeky, là, qui est rendu à 16 points, Zaka 15 points en 18 matchs. Puis t'as David Pasternak à travers tout ça. Qui
continue à rouler, continue. Peu importe qui sont ses coéquipiers de trio.
Ah, c'est incroyable. Puis je veux dire, il y a le club sur ses épaules, là, mais ça va être. J'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de voir les Stars, c'est ça. C'est deux matchs qui vont être difficiles. Je reviens juste aux gardiens. T'sais, tu parlais de Dobesh là, pour le prochain match, je suis d'accord. Est-ce qu'on est rendu au point chez Tricolore où là, tu y vas avec le plus haut? Là, c'est plus une question de Montembeau, c'est qui le numéro un, c'est qui tout ça. On y va avec celui qui nous a donné une victoire. Ou à l'inverse, est-ce qu'on est rendu, genre, on en a parlé dans, depuis le début de la saison, mais un 50-50 où c'est lui tel match, c'est lui tel match, t'alternes entre les deux pour une certaine période pour pas te retrouver dans une situation où si Dobesh pogne en feu, là, lui donner 3-4 matchs de suite puis Montembeau joue pas?
Ben, honnêtement, moi je suis rendu à ce point-là. Tu regardes Dobesh part la saison avec 6 victoires de suite. C'était le 28 octobre, la 6e victoire de cette séquence-là. Depuis ce temps-là, il a été devant les filets une seule fois. On est rendu le 12 novembre. Donc là, ton gardien qui est en feu, tu l'as peut-être éteint. Puis est-ce que c'est une erreur? Je comprends la situation. On voulait redonner un peu de temps de jeu à Montembeau, lui permettre de retrouver son rythme et de prendre la confiance. C'est correct. Mais là, à partir de maintenant, si Dobesh gagne contre les Stars, moi, je poursuis samedi avec Dobesh parce que Samuel Montembeau, on l'aime, c'est un bon garçon, on a toujours du plaisir à lui parler, mais en ce moment, force est d'admettre qu'il n'y a pas eu un match complet de 60 minutes où il a été dominant. Toujours une petite séquence dans un match qui, tu sais, contre le Mammouth, ça a peut-être été son meilleur match.
Je pense que oui. C'est dommage qu'il n'a pas pu construire là-dessus. Mm-hmm. Je veux dire, le Mammouth, à part le premier tir là, où il a mal géré un peu la rondelle devant son demi-cercle puis qu'il s'est fait marquer, je trouve dans le reste du match, je trouve qu'il a fait les arrêts importants. En deuxième période, quand les Canadiens venaient d'égaler, il a stoppé Barrett Hayton.
Ouais.
J'aurais aimé ça le voir construire là-dessus, puis c'est pas ce qui est arrivé hier.
Puis on regardait hier, dans 6 de ses 7 derniers matchs, il a donné 3 buts sans riposte. Ça commence à faire beaucoup, là. C'est des séquences où, justement, tu veux que ton gardien, OK, là, ça commence à glisser comme hier, en début de deuxième. Tout le monde est endormi, j'en conviens. Mais c'est dans ces moments-là que tu veux que ton gardien fasse comme, hey, gros arrêt, on revient, on se réveille, puis on repart, tu sais. Mais hier, il a glissé en même temps que l'équipe. Il n'a pas été capable de ramener ça. Puis, tu sais, hier, je me suis passé la réflexion. Doug Armstrong était sur la passerelle avec Julien Brisebois puis Don Sweeney. Est-ce que Montembeau est un peu écrasé par cette pression-là de... Tu sais, pour lui, cette année, c'est un poste à perdre avec la formation canadienne, là, parce qu'il était là aux Quatre Nations l'an dernier. Puis l'an dernier, on se disait, ben, ce sera une surprise, un extra si Montembeau réussit à attirer l'attention puis à se retrouver avec la formation canadienne aux Quatre Nations. Est-ce que ça l'écrase au point où il offre des performances comme celles qu'il offre en ce moment? Je pose la question. Peut-être que c'est le cas, mais je pense que rendu à la mi-novembre, on lui a donné une chance de se racheter. Si Dobesh poursuit sur son début de saison, ben là, ce serait peut-être le temps de commencer à inverser les rôles. Puis si en décembre, Montembeau revient au sommet de sa forme puis Dobesh a un creux, ben on retournera comme ça. Je pense qu'on peut avoir un combo 1A, 1B à Montréal. Là, je pense qu'il n'y a pas de numéro 1 clair en ce moment, du moins. Je pense qu'on pourrait y aller de cette façon-là à partir de maintenant.
Phénomène assez rare. Après le match contre les Kings, Samuel Montembeau n'était pas dans le vestiaire pour répondre aux questions des journalistes. Je ne lance pas le blâme à Samuel Montembeau. Je crois plus à une décision de la part de l'organisation. Justement, Guillaume en parlait, mais Armstrong est encore sur la passerelle de presse. Les questions deviennent parfois répétitives. As-tu le sentiment que le tapis te glisse sous les pieds? Donc, Montembeau n'a pas répondu aux questions. Puis c'est le type de joueur, c'est le type d'humain qui ne s'est jamais caché ou quoi que ce soit, au contraire. Puis même pour Jakub Dobesh, ça fait longtemps, mais Dobesh, le dernier match, c'était à Newark. Après la rencontre contre les Devils, une défaite au mois de novembre où Jakub Dobesh jongle mal avec ses émotions, s'en voulait pour une défaite de 4-3 à Newark au mois de novembre. Donc, il faut quand même apprendre à respirer aussi. Dobesh aura l'occasion de se replacer. Mais là, tu ne veux pas arriver puis nuire à tes deux gardiens. Je pense que tu dois construire avec celui qui te donne les meilleures chances de gagner. Puis, à mes yeux, ce sera Dobesh face aux Stars. Ça fait pas de doute.
Semble-t-il que Dobesh écoute du Daniel Bélanger depuis le dernier match au New Jersey. Pour...
Oui, mais l'autre histoire...
Être de retour en force, là.
L'autre histoire avec Dobesh, c'est qu'il y a eu des... Dobesh a parlé avec Arpin Basu, collègue de The Athletic, de la possibilité de représenter la Tchéquie. Guillaume avait déjà écrit à ce sujet l'an dernier comme quoi Dobesh n'a jamais été... Dans le radar des décideurs tchèques, autant chez les moins de 18 que les moins de 20 ans. Donc, il n'y a pas un grand sentiment d'appartenance envers son pays natal. Puis, il disait qu'il avait envoyé un courriel, pas de réponse non plus. Donc, il était plongé un petit peu dans le noir. Puis, il a fini par dire que lui, les Olympiques, c'est pas nécessairement un rêve parce que la Tchéquie n'a jamais pensé à lui. Les propos en Tchéquie de Dobesh ont été repris. Ça a fait grand bruit. Il a été probablement critiqué. Donc, peut-être que la petite crisette ou les petites larmes qui pouvaient couler...
Le trop-plein. Le trop-plein.
C'est un trop-plein. Ouais. Puis en plus, tu passes une journée à Newark, ça peut te permettre de briser. Là.
Moi, j'attribue peut-être plus ça à... Peut-être que le magasin d'ongles était fermé avant le match. Je peux pas faire.
Tu peux pas avoir une belle manucure à Newark.
Il s'est buté à une porte de métal. Là,
si on cherche des commanditaires, là, on n'aura jamais visite Newark ou visite Edmonton.
Edmonton. Vous êtes brûlés là-dessus.
Les offices de tourisme de ces villes-là.
Mais Saint-Louis pourrait cogner à notre porte.
Saint-Louis puis le Elbow Room de la Floride risquent d'être les premiers à vouloir mettre une belle commanditaire sur notre balado. Allez, gars, on va poursuivre. On va lâcher un peu le Canadien. T'es allé, GF, du côté de Toronto pour l'intronisation, cérémonie d'intronisation du Temple de la Renommée, là, la QV 2025. T'es revenu avec plusieurs histoires. Les gens peuvent lire ça sur lnh.com. Je veux parler surtout de Daniel Sauvageau. Mm-hmm. La semaine dernière, on a reçu Philippe Boucher. Philippe Boucher nous a parlé des joueurs avec qui il avait joué. Daniel Sauvageau, il était temps. Ouais. Moi, quand j'ai appris Daniel Sauvageau rentrait cette année, j'ai fait « Voyons donc, c'était pas fait. » On dirait que j'avais pas réalisé comment... Je dis, elle a tellement fait de choses pour le hockey féminin, mais pour le hockey masculin aussi. Là, je dis, ouais. François Gagnon est rentré en fin de semaine comme journaliste, mais Daniel Sauvageau a fait de la télé depuis longtemps aussi, dans les médias, tout ça. Il était temps, là. Écoute, elle doit... Est-ce que justement, elle se disait « Il était temps » ou au contraire, pour elle, c'est... Ben écoute, ça allait arriver quand ça allait arriver parce que de toute façon, il fallait que je travaille comme une malade toute ma carrière pour justement défoncer porte par porte.
Ben elle rentre premièrement dans la catégorie des bâtisseurs. Quand tu lis la définition d'un bâtisseur, c'est exactement ce que Daniel Sauvageau 100%. A réussi à faire pour toute sa carrière. La première femme à obtenir cet honneur comme bâtisseur. Tu sais, juste une petite anecdote, elle racontait avec émotion que très jeune, elle tombe en amour avec le hockey. Mais on parle d'une époque où les femmes ne jouaient pas au hockey, où les jeunes filles ne jouaient pas au hockey. Elle voulait s'inscrire du côté de Deux-Montagnes pour jouer dans une équipe de hockey. Puis on lui a dit non, c'est interdit. Mais sa mère lui mentionnait, le mantra du côté de sa mère, c'est « qu'est-ce que je peux faire pour aider? » Elle s'est fait dire non. Il y a une porte qui se fermait devant elle. Mais du côté des hommes de hockey à Deux-Montagnes, on lui disait « mais si tu veux, tu pourras remplir les gourdes pendant les matchs de ton grand frère ou de ton petit frère. Tu te placeras derrière le banc puis tu te donneras des gourdes d'eau. » Fait qu'elle dit, on dirait que ça a été comme annonciateur du reste de sa carrière, se retrouver derrière un banc. Elle aurait aimé jouer, mais à cette époque-là, c'était impossible. Puis tu sais, Daniel Sauvageau, elle est présente 2002, la première année olympique pour les femmes. Du côté de Salt Lake City, c'est elle qui est l'entraîneuse qui gagne
deuxième,
la médaille.
Deuxième année olympique.
Deuxième année.
Première année que le Canada gagne.
Première année.
Oui.
98, c'est en démonstration ou c'était déjà le sport officiel?
Ben, si je me souviens bien, c'est un sport officiel. Je pense pas que c'était en démonstration.
Guillaume fait la recherche.
Je vais faire les recherches pendant... Pour
non, mais c'était Camille Granato. Là, il y avait une médaille. Écoute, démonstration ou pas, c'était Canada-États-Unis.
C'est six
ça,
fois
là.
Qu'elle travaille pour le Canada, a des présences pour les Jeux olympiques dans différents rôles. Elle crée un programme de hockey féminin avec les Carabins de l'Université de Montréal. Elle est la première DG de la Victoire de Montréal. Donc, c'est une femme qui a consacré sa vie pour le hockey. C'est pleinement mérité comme honneur pour Daniel Sauvageau.
Les premiers jeux, c'était 98, messieurs.
Yes. OK, donc 98.
98, puis le Canada a commencé sa séquence record de 24 victoires en 2002, puis ça a duré jusqu'en 2018.
Okay, mon erreur. Donc, la même année où Wayne Gretzky ne va pas pour le Canada en tir de barrage, ouais, c'était la première année des fans.
Ouais, on se levait à 4 heures du matin pour écouter les matchs. En tout cas, moi, je le faisais. Je ne sais pas pour vous autres, mais...
En 98?
En 98, j'avais...
J'avais 7 ans, donc je me levais pas à 4 heures
non,
du matin.
Non, c'est ça. Ben, moi, j'avais
je me levais
comme,
peut-être à 6 heures pour écouter Bibi Geneviève, par contre.
Moi, j'avais 18, oui. Donc oui, je me souviens parfaitement des jeux de Nagano. Sinon, parmi les autres qui rentrent au Temple de la Renommée, il y a Joe Thornton, il y a Duncan Keith, il y a Alexander Mogilny qui, lui, n'avait même pas fait le voyage du côté de Toronto.
Ouais, on en a parlé la semaine passée, il a peur des avions.
Hein? Ouais, exact. Peur des avions, c'est une drôle de décision. Là, t'attends depuis une dizaine d'années pour pas obtenir ton tour, mais bon. Zeno Chara également. Zeno Chara qui, le week-end où il rentre au temple, le dimanche matin, quand il y a la période de questions-réponses, je pense que c'est Joe Thornton qui lance en blague, t'as couru combien de kilomètres ce matin quand que les autres gars ont l'air à plus revenir d'un... C'est une matinée où ils se remettent d'une soirée peut-être arrosée. Puis Chara dit « Ah, c'est un petit dimanche tranquille, couru 16 km. » Donc, Zeno, ça reste une formidable machine d'entraînement, même s'il ne joue plus au hockey. Puis Joe Thornton, juste pour la petite histoire, là, j'ai écrit avec un partisan qui venait de Terre-Neuve pour voir son idole rentrer au Temple de la Renommée. Puis le partisan voulait poser une question à Joe Thornton. Puis avant de la poser, il dit « Bien, écoute, je suis heureux d'être ici parce que mon vol a été retardé de 10 heures. J'ai eu de la misère à me rendre à Toronto. » Puis avant de finir sa question, Joe Thornton se lève de l'estrade, va voir le gars, lui donne un gros câlin en souriant. Puis il dit « Je reviens te voir à la fin de la conférence. Tu l'auras mérité. Si tu as à me faire signer des trucs, ça va me faire plaisir. » Donc, c'est un gars qui est hyper charismatique, Joe Thornton. Il était le fun à voir. Même, il a croisé un entraîneur d'hockey mineur du côté de Saint-Thomas où il venait. Puis il l'a aperçu parmi la foule, parmi les partisans. Puis il a pris le temps de lui dire, de le saluer, de le remercier. Puis, il parlait avec son cœur. Donc, c'était le fun pour Joe Thornton cette fin de semaine.
Oui, puis encore aujourd'hui, là, cet été, c'est l'été dernier, là, je parlais avec Cameron Reed, qui est un espoir qui a été repêché par
Nashville, les Prédateurs.
Nashville, merci. Reed est originaire de la région de Saint-Thomas, puis il dit j'ai le numéro à Joe Thornton. Il me l'a donné en me disant si tu as des questions pour l'entraînement, écris-moi. Ça va me faire plaisir. Il dit, je ne l'ai pas fait. Je suis bien trop gêné, mais il dit, effectivement. Puis je pense, Thornton a parlé d'amener Reed en Suisse parce que les jeunes de Suisse qui nous écoutent, vous le savez probablement plus que nous, mais je pense que Thornton a la nationalité suisse.
Ben, il est marié à une Suisse. C'est le résultat de sa saison pendant un lockout de la Ligue nationale où il jouait à Davos. Puis il retourne tous les ans du côté de la Suisse.
Pour vrai, a rencontré... Ah ouais, c'est ouais. Davos.
Son épouse vient de la Suisse. Donc, puis même, il disait en blague que prochainement, il doit partir une semaine ou deux semaines, mais qu'il va devoir laisser Macklin Celebrini seul à la maison. Donc, il voulait choisir une date où les Sharks se retrouveraient sur la route plus souvent qu'à la maison. Donc, Papa Joe fait attention aux jeunes Macklin avec les Sharks.
Tu vois, moi qui parle tout le temps de la Coupe Spengler, là... Hein? Il a trouvé l'amour à la Coupe Spengler de Joe Thornton. Donc, c'est-tu pas beau?
On fera un balado spécial.
Ben oui, parce que là, Marc Bergevin vient d'être nommé directeur général du Canada pour la Coupe Spengler. Donc, vous connaissez mon amour pour le tournoi. On va...
D'ailleurs, Nick, juste une petite salutation au collègue suisse Emmanuel Favre qui nourrit les journalistes montréalais. Depuis maintenant plus d'une semaine, a porté, je pense, une valise complète de petits chocolats suisses. Et c'est ça, il est responsable là, de peut-être des petits livres supplémentaires qu'on va prendre dans les prochaines semaines.
Là. Lesquels, les chocolats suisses? Là, il y a plusieurs marques. Là.
Écoute, il faudrait que je me lève puis que j'aille les chercher, mais ils sont très loin derrière.
Vas-y, mais on dirait qu'ils traînent, tu sais, c'est pratiquement le cliché, là, mais ils traînent une tablette de chocolat dans sa poche. Et hier, le relationniste du côté des Kings l'avait aidé à obtenir une entrevue avec Kevin Fiala, qui est suisse. Et pour simplement le remercier de sa gentillesse, Emmanuel a sorti une autre tablette de chocolat pour lui donner.
Il est comme...
Donc, toujours, je pense qu'il n'a pas réussi à amener du fromage, ni une fondue, ni de la raclette. Mais oui, exact, Guillaume montre le chocolat.
Les ragusa.
Ragusa, OK. Okay.
C'est délicieux. C'est comme un, du nougat enrobé de chocolat, puis il y a des petites noisettes à l'intérieur. Donc, c'est
vraiment pas vilain.
Un savant mélange.
Ah, ben parce que je suis allé visiter la chocolaterie Caillé quand j'ai été en Suisse, donc je me demandais si c'était la même marque, mais bon, j'imagine que peu importe la région.
Emmanuel est quand même rusé du côté de son employeur. Emmanuel travaille pour dans le coin de Lausanne en Suisse. Puis ils avaient.
Il est au matin, le matin, je veux pas me tromper, là, mais. Le matin, 20 minutes CH et le matin CH, donc au niveau des sites. Ouais,
puis avec son employeur, devait suivre une formation de 3 semaines et cette formation pouvait se tenir à l'étranger. Donc techniquement, Emmanuel est en formation du côté de Montréal, même s'il vient tous les ans au Centre Bell. Il connaît tous les corridors de l'amphithéâtre. Mais c'est important de toujours se renouveler, de rester à l'affût. Donc, c'est ce qu'il a choisi. Puis, il choisit toujours aussi un moment où il peut croiser certains joueurs suisses. A fait le voyage du côté de Newark il y a quelques jours pour Nico Ischier, Timo Meyer,
Siegen Thaler.
Exactement. Il y a 3 joueurs quand même d'importance du côté des Devils qui vont représenter la Suisse aux Olympiques.
Oui, non, exactement. Fait que ces formations-là, nous, est-ce qu'on a accès à la même chose? Je ne suis pas certain. Là.
Mais il y a ouverture de bureau du côté de Zurich aussi.
Oui, ben oui, la Ligue vient d'ouvrir un bureau à Zurich.
On pourrait aller en stage là-bas, je pense.
Je vais,
ou du travail à la maison de à partir de Zurich, peut-être.
Oui, ouais, on va négocier tout ça, puis on va aller passer quelques semaines là-bas.
La qualité de l'Internet à Zurich est probablement meilleure que celle du côté de Longueuil, donc raison de plus d'y aller.
C'est une possibilité. Peut-être un petit mot, François Gagnon, les gars, qui aussi obtient le prix Elmer Ferguson pour... c'est une entrée au Temple de renommée, là, dans le fond. François, c'est comment travailler avec François, les gars, si vous aviez à dire ça en quelques secondes?
C'est drôle, c'est sympathique, c'est un travaillant. François est un grand, grand travaillant. C'est quelqu'un d'hyper fidèle aussi quand il aime. Il n'aime pas toujours, mais quand il aime, il va te donner ton cœur à son cœur à 100%.
Ouais.
Puis, tu sais, travailler du côté de ouais, petite rondelle.
Ils ont tous remis aux collègues hier soir, je sais pas si on la voit du bon côté, là, mais une rondelle commémorative là, de son entrée au Temple. Donc, c'est un gars qui reconnaît aussi, il y a eu un mot pour ses collègues pendant son discours aussi, tu sais, il reconnaît ce que ses collègues lui apportent et tout ça. Donc, il est quand même très reconnaissant. Et François, c'est... Quand il est dans un scrum, t'es content qu'il soit là parce que tu sais qu'il va laisser les questions se poser, puis à la fin, il va ajouter son grain de sel, puis c'est là que peut-être
ça va
la
s'ouvrir.
Bonne réponse. Ouais. C'est ça, la bonne réponse, parce que lui, il amène, tu sais, il a vraiment une vision du hockey, il a tout son bagage aussi, donc quand il est là, il va arriver avec la question qu'il va peut-être te donner l'information que tu voulais ou la quote, la déclaration que tu voulais. Donc, François est un collègue très, très estimé là, dans la confrérie.
Puis c'est un gars qui a quand même bûché pour se rendre où il est présentement, a fait autant de la radio, de la télé, l'écrit. L'écrit disait que c'était pas nécessairement naturel pour lui, c'était difficile au départ. C'est Marc Brassard, un collègue d'Ottawa, mais je dis Ottawa, collègue de Gatineau, qui racontait que François traînait son Becherel, traînait un dictionnaire, pouvait échapper quelques petites erreurs. Évidemment, il y a des pupitres qui sont là pour corriger, pour réviser, mais a eu à travailler. Puis tu sais, quand on parle de passion, fait de très longues journées, il peut finir ses textes très tard le soir parce qu'il veut s'assurer qu'il aime son papier avant de l'envoyer du côté d'RDS.
En fait, je dirais très, très tôt le matin. Là,
très tôt le matin.
En série, des fois, François arrive à l'entraînement matinal au lendemain d'un match, puis là, il nous dit Ouais, là, je suis retourné à l'hôtel, j'ai écrit jusqu'à 2-3 heures. Il dit là, j'ai fait comme une petite sieste, j'ai dormi 2 heures, je me suis réveillé à 5 heures pour finir ce texte-là, puis l'envoyer avant que les gars rentrent au bureau à Montréal. Donc, c'est un gars qui travaille, ouais. Je dirais, sans arrêt. Là. C'est des...
Puis quand il tombe en amour, tu sais, il tombe en amour avec une canette de coke, il peut en boire 8 par jour. Ça, c'est un chiffre raisonnable. Ouais. L'été, quand il joue au golf, il peut jouer facilement plus qu'un 18. C'est quelqu'un de passionné qui a réussi à tracer son chemin sans rentrer dans un débat de langue ou quoi que ce soit, mais pour obtenir la reconnaissance, le Elmer Ferguson, quand tu travailles en français, ça reste toujours plus difficile. C'est aussi simple que ça, mais les collègues ne nous lisent pas ou n'ont pas la capacité de comprendre ce qu'on écrit ou ce qu'on dit quand ils sont une langue anglophone. Mais à travers la Ligue nationale, le nom de François Gagnon résonne depuis longtemps. Puis c'est un titre pleinement mérité. Donc, un gros bravo à François pour son entrée.
Ouais. L'an prochain, les gars, la prochaine cuvée, plusieurs candidats. Vous en pensez quoi? Si j'ai à vous dire, vous en avez 4 à choisir ou 3, qui vous verriez l'année prochaine entrer parmi tous les candidats?
Ben, je pense que ça va être le tour de Carey Price.
Ouais.
Je sais que ça fait débat à Montréal parce que...
Et uniquement
Carey Price
n'a
pas gagné, c'est ça, n'a pas gagné de coupe, non. Ben, écoute, on regarde la feuille de route de Carey Price, je pense que ça devrait être son tour. Ensuite, je pense que Zdeno Chara a parlé de Patrice Bergeron pendant la fin de semaine aussi. Donc, je pense que c'est 2 solides candidats pour une intronisation prochaine.
Ouais, Bergeron, ça va être sa première année. Est-ce que c'est un candidat de première année, selon vous? Va peut-être devoir attendre une année ou deux.
Ben, pour moi,
tu compares avec Eric Staal. Eric Staal, qui lui aussi est un gars de première année.
C'est première année. Écoute, le nombre de jeunes à qui je parle, des jeunes espoirs, puis Nick, tu t'as fait le combine l'année passée. Tu demandes un modèle, tu demandes à un joueur de centre qui veut être Patrice Bergeron, c'est même dans la génération actuelle là, qui l'ont peut-être pas vu tant que ça évoluer. C'est un nom qui revient année après année. C'est un modèle que plusieurs jeunes ont décidé de suivre. Donc pour moi, ça en dit plus que tu sais ce qu'on peut penser au niveau des stats puis tout ça. Quand tu es un modèle pour la prochaine génération, je pense que ça veut tout dire sur l'ampleur de ta carrière.
Puis c'est surtout pas un gagnant du Selke ou 2 fois, c'est 6 fois récipiendaire du Frank Selke. Son nom sur la Coupe Stanley, 3 présences en finale, des médailles également d'or avec l'équipe canadienne. Pour moi, c'est un billet en ligne droite vers le temple de la renommée, n'aura pas à patienter. Je suis d'accord aussi avec Carey Price. Les autres noms, t'as parlé d'Eric Staal. Est-ce qu'Henrik Zetterberg pourrait obtenir la reconnaissance l'an prochain? C'est fort possible. Il y a souvent un Européen qui va avoir le bonheur d'entrer par année. Il y a de bons candidats. J'ai hâte de voir la cuvée 2026. Oh, mais si on parle juste de Bergeron et Price, ce sera une cuvée où on aura beaucoup d'articles à écrire.
Oui, effectivement. Pour l'ensemble de l'œuvre, Patrick Marleault, je pense, devrait rentrer l'année prochaine.
Ben, c'est le gars qui a joué le plus de matchs en
c'est
carrière
ça, exactement.
Aussi. Donc.
C'est l'impact qu'il y a eu. C'était un Iron Man, un homme de fer. Mais c'est pas une. Je veux dire, après Bergeron, pour les joueurs, les 2 autres joueurs qu'on a, il y a un texte que vous pouvez aller lire si vous êtes curieux un peu de voir qui pourrait entrer. Les joueurs de première année, Phil Kessel et Eric Staal sont les autres avec Bergeron. Donc, je pense que s'il y en a un qui entre, ça risque d'être Bergeron. Vincent Danfousse est dans la liste. Je ne sais pas si ça pourrait être l'année. Un peu comme Pierre Turgeon, hein, ça serait un peu le même principe d'avoir attendu très longtemps. Mais Turgeon était le joueur avec le plus de points à ne pas être au temple de la renommée. Ben là, c'est Danfousse qui prend ça.
Il y a Rob Brenamo aussi, si ma mémoire est bonne, qui fait partie des candidats probables.
Ouais, t'as Sergei Gonchar, Ryan Getzlaff aussi qui sont d'autres qui pourraient entrer. Pekka Rinne, Jason Spezza, mais je pense que ceux qu'on a nommés, là, Zetterberg et tout ça, c'est la liste la plus évidente. Les gars, je vous amène. Guillaume. Tu as parlé avec Caleb Desnoyers, 4e choix du dernier repêchage. Caleb, qui on l'a reçu 2 fois sur le balado, on sait, c'est un joueur qui est dédié, mais là, il faisait face à une grosse épreuve cette année parce qu'il a commencé son année en retard, a été opéré au poignet, aux 2 poignets ou à un seul?
Un seul, mais il y avait des problèmes aux deux poignets là, okay, à la fin de la dernière saison. Là.
Okay.
C'est. Bon, vas-y.
Oui, bien ça, OK. Donc, opéré, devait rater les 12 premières semaines de la saison. Tu y as parlé, il est de retour au jeu avec le Wildcats de Moncton. Méchante bonne nouvelle pour le Mammouth, pour un joueur qui, si tout va bien, devrait être avec l'équipe. Quoi, peut-être même à partir de l'an prochain, je ne sais pas comment tu vois ça.
Oui, c'est une grande possibilité. J'ai parlé aussi au directeur général adjoint du Mammouth qui était au match contre l'Armada, David Ludwig, qui semblait le voir dans sa soupe, disons, du côté de l'Utah. Caleb Desnoyer, on lui prédisait 12. On avait dit 12, mais lui nous a dit que c'était 12, entre 12 et 16 semaines.
Yo.
De réadaptation après cette opération au poignet-là et de retour après seulement 9 semaines. Il a été suivi en Utah, à Salt Lake City, dans les nouvelles installations du Mammouth. Il a fait un peu de réadaptation aussi du côté de Moncton. Donc, il y a eu un suivi très, très serré. Puis, Caleb Desnoyers, quelqu'un qui est, tu l'as dit, dévoué à sa carrière. Il veut jouer, il veut progresser. Donc, il a probablement que la majeure partie de son temps libre était consacrée à des exercices de réadaptation, à des séances de physiothérapie et compagnie, a réussi à revenir plus vite que prévu. Pour lui, c'est un bon signe parce qu'on sait, le Mondial Junior, c'est un candidat très sérieux à un poste avec la formation canadienne. S'il était revenu au jeu mi-novembre, fin novembre, ça te laisse une ou deux semaines pour convaincre les dirigeants que tu es de retour en santé et que tu es prêt à avoir un impact dans une équipe qui va être très talentueuse au mois de décembre. Donc, pour lui, c'est une bonne nouvelle. Là. Puis, il s'est acheté un peu de temps pour justement démontrer qu'il est en pleine santé. Il a quand même une bonne feuille de route. Là. Gagner l'or à au moins 17 ans, au moins 18 ans à la Coupe Lincoln Gretzky aussi avec le Canada. Donc, on le connaît bien du côté du Canada. C'était pas une inquiétude, mais c'est vraiment de montrer que il est en santé, puis il peut avoir un impact. Il va avoir la chance de le démontrer avec les Wildcats d'ici la sélection de l'équipe. Mais c'est vraiment un drôle de bonhomme, ce Caleb Desnoyers-là. Tu sais, l'an passé, je l'avais un peu découvert avec sa loi de l'attraction. Là. Il m'avait raconté ça, là, que si tu as une idée en tête puis que tu la mets dans l'univers, bien, ça va te finir par te revenir. Et là, il nous a sorti le « power of the mind », le pouvoir de l'esprit. Là. Il dit « je me suis mis en tête que je reviendrai plus vite ». Puis c'est ça qui est arrivé. On sent un peu d'influence de Gardiner McDougall, qui est un entraîneur qui semble avoir certains concepts similaires à…
Ésotérique.
Oui, c'est ça, qui enseigne ça un peu à ses jeunes. Donc, bonne nouvelle pour Caleb Desnoyers et le Mammouth. Là. David Ludwig qui me disait, tu sais, on bâtit une équipe gagnante par la ligne de centre. Puis en ce moment, avec Logan Cooley, avec, voyons, j'ai un blanc, le deuxième centre, Barrett Ayton et Caleb Desnoyers, ben on va avoir éventuellement une ligne de centre très, très dominante. Puis c'est ce qu'on vise du côté de l'Utah. À voir si ce sera dès la saison prochaine ou un peu plus tard. Mais si Caleb Desnoyers se le met dans la tête, ça se pourrait que ça se produise.
Il lance l'idée dans l'univers. Exact. Là. Bon, exact. Mais c'est quoi les attentes pour lui au niveau équipe cette année? Les Wildcats, tu t'attends à quoi? Bon, l'année dernière, c'était une grosse année pour eux. Desnoyers aurait pu aller dans la NCAA aussi. Il y en a une bonne gang qui l'ont fait. Lui a décidé de ne pas le faire. On s'attend à quoi de Caleb Desnoyers?
C'est intéressant ce point-là sur la NCAA. Tu sais, je lui ai posé la question parce qu'il avait dit, il avait laissé planer quand même le doute, il avait dit « je vais évoluer à l'endroit qui va me permettre de me rapprocher le plus rapidement possible de la Ligue nationale ». On sentait qu'il avait quand même en tête l'idée de jouer avec le Mammouth de cette saison. La blessure, l'opération, ben ça a peut-être contrecarré ses plans à ce niveau-là. Mais il dit « je suis quelqu'un de très loyal », puis il dit « avec tout ce que les McDougall, avec ce que M. Irving, le propriétaire des Wildcats, a fait pour moi dans les dernières années, il dit « c'était juste logique que je retourne à Moncton ». Il ne voulait pas quitter le navire puis aller dans la NCAA pour une autre occasion. Puis tu sais, on peut deviner qu'il y avait plusieurs offres sur la table là, pour un quatrième choix au total dans la Ligue nationale. Je suis sûr qu'il y a plusieurs universités qui ont cogné à sa porte, mais pour lui, c'est important de rester fidèle aux Wildcats. Donc, il est de retour avec les Wildcats. C'est certain qu'après une année de conquête du trophée Gilles Courteau, une présence à la Coupe Memorial, bien, on s'attend un peu à une baisse de régime du côté de Moncton, mais Caleb a vraiment l'objectif d'y aller encore pour le championnat. Puis il y a quand même encore des éléments très, très intéressants du côté de Moncton. Donc, c'est pas une impossibilité. Ça va être de voir, rendu à la période des fêtes, qu'est-ce que les Wildcats décident de faire. Est-ce qu'on décide d'échanger nos gros morceaux comme Caleb Desnoyers pour aller rebâtir l'avenir? Ou est-ce qu'on décide d'y aller pour un deuxième championnat consécutif? Bien, ça va être à suivre. Mais écoute, Caleb Desnoyers, meilleur pointeur de cette équipe-là, 84 points en 56 matchs l'an dernier. Là, ça va être une saison avec beaucoup d'attentes de son côté. Mm-hmm. Puis, tu sais, 84 points, on peut s'attendre peut-être à une saison près de... Oh, oui, il dit
c'est
à partir
ça,
de novembre...
points blessés, là, c'est ça. Là.
À partir de novembre, il y avait un kyste à un poignet, puis deux déchirures dans l'autre. Puis il a réussi à faire ce qu'il a réussi à faire l'an dernier. Donc, disons qu'on peut s'attendre à de grandes choses de la part de Caleb Desnoyers, puis peut-être une participation au Mondial Junior avec le Canada aussi.
C'est peut-être pour ça aussi qu'il est sorti quatrième. On le voyait plus bas que ça, mais d'après moi, le Mammouth a pris une chance en se disant « Ben écoute, s'il avait été à 100% ce joueur-là, qu'est-ce qu'il aurait fait cette année? Ça aurait été le 100 points minimum. » Donc, il aurait été. Puis je regardais le Wildcat, ça se passe bien cette année quand même. Somme toute, là, on est quatrième dans l'Est là, avec une fiche de 9-5-2. On va suivre le tout dans le cas de Caleb. 9-5-2 sans Desnoyers. Ça va être intéressant quand il va être officiellement, quand il va être de retour pour une longue période. Donc, on va suivre tout ça. On va vous parler de ça. D'ailleurs, tu vas lui parler toute l'année à Caleb ou ici et là ou comment tu...
Non, on va le suivre ici et là. L'an dernier, on avait fait le carnet avec lui, mais cette année, c'est Xavier Villeneuve qui est en vedette dans notre carnet.
Oui, le carnet, pour ceux qui ne connaissent pas le carnet, c'est on parle avec un joueur qui est un espoir du repêchage. Donc, vous pouvez suivre sa saison sur le site de LNH.com. D'ailleurs, les chers auditeurs, si vous voulez lire les textes de GF, de Guillaume, tout ça, c'est disponible. De moi aussi, j'en ai écrit quelques-uns dernièrement. Tout ça est disponible sur le site de LNH. Donc, allez nous lire. Pour le balado, ben les gars, on va se reparler la semaine prochaine, comme d'habitude. La semaine prochaine, mercredi à nouveau. Donc, on va parler de ça. On va pouvoir faire le bilan de la fin de semaine, entre autres, du tricolore. Puis, chers auditeurs, bien, si vous nous écoutez sur, comme je disais, sur le site de lnh.com, écoutez-nous, vous pouvez nous écouter. On est partout. On est sur YouTube. Suivez-nous. Si vous nous trouvez sur YouTube, vous ne trouvez pas, allez sur la page de NHL et dans la section podcast. C'est à cet endroit que se retrouve le balado. GF, je te laisse partir. Tu t'en vas à la pratique des Canadiens. Guillaume, tu t'en vas à celle des Stars. Donc, encore là, ça va être disponible, vos textes. Au moment où le balado va être en ligne, probablement que vos textes vont l'être aussi, à moins que vous restez pris dans la neige comme GF hier. Merci d'avoir été là, les gars, aujourd'hui.
Merci, à
ça
bientôt.
Ça fait plaisir.
Et chers auditeurs, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et on se reparle très bientôt.